Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. Nous allons donc parler de Antoine Réchat. Alors, Antoine Réchat, il est pas vraiment français, ni vraiment germanique. Et alors, on le connaît par ses liens à Beethoven et Haydn, dont il a été l'ami, et il a été professeur de Berlioz, de Liszt à Paris, notamment. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le chaînon manquant entre Beethoven et Liszt, ou entre Beethoven et Berlioz, peut-être?
En tout cas, c'est la maille manquante entre le monde musical viennois et le monde musical parisien de 1800 environ, on va dire. Parce que c'est pas forcément le seul compositeur qui a fait ce parcours, mais il a fait une espèce de double carrière. Il a commencé effectivement, donc il est né à Prague, il a emménagé à Bonn à 15 ans, il a rencontré Beethoven qui est originaire de Bonn. Il a fait une première carrière à Vienne, il était l'assistant et l'élève de Haydn. Il a travaillé le contrepoint avec Albrecht Berger, qui était aussi le professeur de contrepoint de Beethoven à Vienne. Et en 1808, il quitte Vienne pour s'installer à Paris. Et à Paris, à 38 ans, il va devenir l'un des professeurs les plus réputés, les plus en demande, pour enseigner justement le style viennois. Alors on a tendance à penser que Paris et Vienne sont des centres musicaux cloisonnés, et c'est bien le cas. Et Réchat a réussi en fait à quitter Vienne, à s'installer à Paris et à devenir professeur au Conservatoire de Paris. C'est pas rien. Même aujourd'hui, c'est assez rare. Ce serait très rare que quelqu'un de l'extérieur puisse avoir le poste de professeur au Conservatoire de Paris. Le monde parisien est fermé. Donc c'est assez remarquable comme parcours. Il va épouser une Française. Il aura deux filles en France. Il va prendre la nationalité française, tout ça à partir de 38 ans, encore une fois, c'est incroyable. Et puis surtout, et la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est qu'il va léguer tous ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Donc il s'identifie quand même comme français ou comme musicien français à la fin de sa vie, et c'est pas pour rien qu'il a légué ses manuscrits en France à la Bibliothèque nationale, et non ni à Vienne ni à Prague. C'est très intéressant. Et résultat, nous sommes ici en France en train de redécouvrir ce compositeur qui reste délaissé d'ailleurs à la fois à Vienne et à Prague, puisque justement il a abandonné un peu ses racines.
Alors Ivan Illich vient nous présenter un disque qui sera le premier d'une série autour d'Antoine Réchat. Je trouve cette musique très élégante. Je ne sais pas vous, il y a quelque chose de très classe, on dirait aujourd'hui. Une grande noblesse dans cette musique. Et je me suis fait la réflexion que souvent, tu parlais du style viennois. Le viennois, pour nous, c'est le viennois romantique. C'est celui de la grande robe blanche et des valses viennois. C'est complètement kitsch, le style viennois. Et là, je me suis dit, c'est vraiment cet autre style viennois, avec toute cette noblesse et cette élégance, comme je disais. Et effectivement, je trouve que particulièrement, alors c'est un peu difficile de ne pas comparer à Beethoven ou à Haydn, mais de sortir peut-être un peu Réchat de son contexte, mais dans cette musique, il y a une très belle noblesse. Est-ce que c'est ça qui t'a attiré chez Réchat? Comment c'est arrivé cette rencontre d'abord?
En tout cas, oui, ça me parle beaucoup. En fait, il y a une chose qui est sûre. Alors après, je suis pas la meilleure personne pour définir... oui ou non, mes capacités ou mes affinités ou mes connivences avec cette musique. Par contre, je dirais que, par exemple, dans les quatre derniers morceaux, dans les fugues, c'est une forme très stricte et ça ne supporte pas très bien le rubato ou une liberté totale de modelage, de mélodie et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est proche. Je préfère... la subtilité, toujours. Parce que, non seulement pour moi-même, mais aussi pour l'auditeur, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter des tonnes. C'est comme si on prenait le public pour des gens très simples. Quand on fait des rubato énormes et quand on doit absolument démontrer sa passion, sa capacité de habiter la musique, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. C'est ce que j'essaie d'incarner. Je ne dis pas du tout que j'y parviens, mais effectivement, dans cette musique, comme c'est une musique qui est très construite, elle n'a pas besoin qu'on rajoute beaucoup de personnalité de la personne qui joue. Par contre, il y a beaucoup de choix qui font que la musique coule toute seule. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, un rôle pour l'interprète qui est important, mais qui est peut-être plus subtil ou plus en retrait ou moins à l'affiche. On n'a pas besoin de s'afficher nous-mêmes en jouant cette musique. On a l'impression qu'elle, quand ça se passe bien, je précise, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand on choisit le bon tempo et le bon son, la bonne démarche physique pour la musique, on a l'impression qu'une fois qu'elle commence, elle se joue toute seule. Alors, sur le plan cérébral, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'elle est quand même assez complexe, et il faut suivre, il ne faut pas se faire avoir par certains pièges dans la structure. Mais bon, tout ça fait que je suis particulièrement sensible à cette musique.
En tant qu'interprète, le fait que cette musique soit moins, voire pas, voire inconnue du public, est-ce que ça amène une dimension supplémentaire? Est-ce qu'il faut, convaincre plus que si tu jouais les préludes de Chopin, qu'on connaît a priori pas mal, voire trop?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité. Puisque je sais très bien que si je joue cette musique et quand quelqu'un l'entend une fois, si ça ne lui plaît pas, il ne va pas chercher plus loin. Et puis la prochaine fois qu'il a l'occasion d'aborder une musique de ce même compositeur, même que ce soit d'autres pièces, il aura plutôt tendance à éviter, à ignorer. Par exemple, s'il voit qu'il y a un concert avec ce répertoire au programme, il ne va pas y aller. Il va essayer d'éviter. Donc je pense qu'il y a une grosse pression quelque part pour qu'elle soit réussie, d'une part. Mais d'autre part, on doit trouver le juste milieu entre cette volonté de promouvoir la musique à tout prix, de la rendre magnifique pour que les gens en parlent, pour qu'ils aient l'impression qu'elle vaut le détour la prochaine fois. Mais quand même, il faut être respectueux par rapport au compositeur, à son style. C'est une nouvelle musique, quelque part, puisque même s'il a été écrit il y a 200 ans, on ne l'a jamais entendue. Donc elle est neuve, elle est fraîche, mais il faut qu'elle soit cohérente avec ce qu'on connaît. Et ça, ce n'est pas évident, parce que j'essayais justement récemment de me faire l'exercice, tout seul, dans mon coin. Je me suis dit, si on ne connaissait aucune œuvre de Beethoven pour piano, on connaissait les symphonies et les quatuors, mais pas les sonates et les variations, comment est-ce qu'on pourrait réagir en la découvrant aujourd'hui? Imaginons que Reicha, il a gagné, tout le monde connaît ses sonates, elles ont été enregistrées 500 fois, et Beethoven, on les découvre aujourd'hui. D'une part, c'est très difficile à imaginer, tellement l'histoire de la musique a été marquée par Beethoven, et d'autre part, je pense qu'on serait très perturbé, on la trouverait très bizarre, pas commode du tout, à la fois pour celui qui joue et pour celui qui écoute. Beaucoup d'interruptions, beaucoup de choses maladroites, beaucoup de paradoxes, de contradictions. Donc c'est assez... Oui. Moi, ça m'a aidé en fait dans la démarche de me dire à quel point est-ce que j'adapte la musique par rapport à ce qu'on connaît d'Haydn et Beethoven. Donc par exemple, dans les fugues que j'ai jouées, notamment dans la première fugue qui est en mi mineur, il y a des allusions, notamment une allusion très forte à une fugue de Bach, qui commence comme ça. Donc il y a ce... Et ça, pour les gens qui connaissent Bach, qui l'ont entendu, qui ont écouté le clavecin bien tempéré ou qui l'ont joué, ils reconnaissent immédiatement ce petit trait chromatique. Et Reicha, il introduit dans une fugue en mi mineur, dans un style assez proche de Bach, il faut l'avouer. Et il introduit comme une figure d'accompagnement. Donc il fait des allusions, des références à des œuvres majeures. Et c'est maintenant qu'on l'entend pour la première fois, c'est ironique. Enfin, encore une fois, je trouve ça incroyable. Parce que, par exemple, la sonate que j'ai jouée donc avant les préludes des fugues, elle n'a pas été publiée. Donc, d'accord, elle était à la Bibliothèque nationale de France jusqu'à... il y a 3 ans. Elle a été publiée. Donc, quelque part, c'est logique qu'on ne la connaisse pas. On n'avait ni la partition, ni des enregistrements, ni rien. Bon, aujourd'hui, on la découvre. Par contre, les autres pièces ont été publiées à Paris en 1810. et on ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas la même chose, parce qu'on avait l'occasion de les connaître sur un site magnifique qui s'appelle la Bibliothèque internationale de musique en ligne, IMSLP, qui est une sorte de Wikipédia pour la musique, où vous trouvez toutes les partitions possibles et imaginables, et où des gens partagent
libre
des partitions.
De libre de droit.
Tout est libre de droit, par définition.
Ils sont tous morts depuis des lustres.
Oui, pour la plupart, c'est vrai. Eh bien, cette partition était disponible depuis des années.
Mais par exemple, Richard, on ne le travaille pas au conservatoire ?
Non, absolument pas.
Vous ne l'aviez jamais croisé ?
Moi, je n'avais jamais vu les partitions de Richard pendant mes études. Je n'en avais jamais entendu parler. Dans les examens où on donne des morceaux méconnus, exprès, pour que d'étudiants qui n'ont aucun qui en a un avantage, jamais j'en ai entendu parler.
Parce que ça, au blind test, tout le monde perd.
Oui, oui, bah oui, c'est ça.
Une autre question, parce que tu faisais référence à Bach. À l'époque de Beethoven, Bach n'est pas du tout mis en valeur, n'est pas du tout joué, puisque, il me semble, on dit que souvent c'est Mendelssohn qui a ressorti un peu Bach du haut de la couche de poussière, là, en dessous de la couche de poussière, et qu'en faisant jouer les passions, etc., là, on a redécouvert un peu ce compositeur, même si son fils avait beaucoup fait pour qu'on conserve au moins le travail de Jean-Sébastien. Donc finalement, Recha, en gardant cette lignée, il est assez surprenant par rapport à... On devait le considérer comme un has-been ou
absolument.
Un réac.
Tout à fait réac, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Mendelssohn a beaucoup contribué à la redécouverte de Bach, c'était pas le seul. Alors, il faut pas oublier que Mendelssohn a fait son droit à Leipzig, il était converti, après il était juif, mais il s'est converti chrétien. Mais tout ça, je suis très sensible à toutes ces histoires parce que j'étais en Irlande du Nord il y a quelques jours. Et en Irlande du Nord, évidemment, la grande question, est-ce que vous êtes catholique ou protestant ? Et oui, et encore aujourd'hui, 20 ans après la guerre. Sauf que on ne pose jamais directement la question. On essaie de deviner par différentes choses. Par exemple, si vous êtes un musicien irlandais du Nord, si vous êtes à l'aise avec la musique traditionnelle irlandaise, qui est proche de la musique celte, folklorique, tout ça, il y a de fortes chances que vous soyez catholique, puisque ça veut dire que vous vous identifiez au sud de l'Irlande. Tandis que si vous n'avez aucun lien avec ça et vous jouez de la musique soul ou plutôt tout ce qui est proche de la pop anglaise, vous êtes plutôt protestant. Alors, je me suis posé la question pour certains musiciens, est-ce que je les imagine jouer de la musique traditionnelle irlandaise ? Non, pas du tout. Donc, je me suis dit, OK, ils sont protestants. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a une raison très particulière et précise pour laquelle Recha était intéressé par Jean-Sébastien Bach et pas Carl Philipp Emanuel, qui était beaucoup plus à la mode.
Le fils dont je parlais, qui a...
Voilà, c'est le fils en question.
On n'oublie pas son père.
C'est que quand Recha et Beethoven, quand ils étaient à Bonn, ils avaient 15 ans, ils ont tous les deux étudié la composition avec un compositeur qui s'appelait Neffe, qui était l'organiste de la cour. Neffe était protestant. Neffe, dont les parents n'acceptaient pas du tout le fait qu'il choisisse la voie de musicien, il a étudié, il a fait son droit à Leipzig, et à Leipzig, il avait l'occasion d'étudier avec quelqu'un qui connaissait les manuscrits de Jean-Sébastien Bach. Mais si ce n'était pas justement ce monsieur-là qui avait eu le poste d'organiste à Bonn 20 ans plus tard, ni Beethoven ni Recha auraient connu le classant bien tempéré de Bach. Et l'histoire de la musique serait totalement différente. Parce que c'est Recha qui a enseigné le contrepoint à la fugue à Berlioz, à Gounod, à Franck, à Liszt, à Onslow, à plein de compositeurs très importants, et qu'il a composé ces pièces qui ressemblent énormément au clavecin bien tempéré de Bach. Eh bien, si ce protestant n'était pas au poste, ça aurait été totalement différent. Ils auraient composé dans un style de musique galante, sans doute. Donc, c'est assez drôle de réaliser cela. Et c'est grâce au fait que Beethoven est devenu une espèce de phénomène culturel, qu'on sache tout sur Beethoven, et avec qui il a étudié, et quel était le bagage musical de tous ses professeurs, que, résultat, on connaît la même chose pour Recha, parce qu'il était au même endroit en même temps.
Alors, ils sont amis, ils sont ennemis, concurrents. Quels sont leurs rapports entre eux ?
Alors, à mon avis, on doit cerner par certaines correspondances, par certaines traces. Ils ont, en tout cas, partagé une grande part de leur parcours en tant qu'adolescent. Donc, à 15 ans, ils se rencontrent. C'est l'oncle de Recha, qui s'appelle Joseph, qui est le chef d'orchestre dans lequel joue Beethoven, il joue l'alto, et Recha qui joue la flûte, donc ils se côtoient. Ils se lient d'amitié, ils vont entamé des études de logique, de mathématiques, de philosophie kantienne à l'université de Bonn, qui a été établie peu de temps avant. Après, il ne se voit plus parce que Beethoven, qui est très ambitieux, qui a envie de tout faire pour réussir, il va partir à Vienne à 22 ans pour côtoyer Haydn et pour commencer sa carrière. Recha,
Il est moins ambitieux, Recha ?
Non, mais je pense que son ambition est différente parce que, d'une part, il ne va pas se manifester comme virtuose. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on défend sa musique quand on n'est pas capable de s'asseoir au piano et de la défendre comme Beethoven le faisait ? Beethoven était improvisateur. En fait, Beethoven faisait beaucoup plus marketing dans les termes d'aujourd'hui. C'est assez drôle parce qu'on voit Beethoven pas du tout comme ça. On le voit très introverti, artiste.
De mauvaise humeur.
De mauvaise humeur tout le temps. Et tout ça est vrai. Il ne supportait pas les gens, les aristocrates ou des personnes qui ne le considéraient pas, puisque c'était juste un petit musicien qui était là pour entertainment, pour faire plaisir aux autres, le divertissement. Et Recha, il a trouvé sa voie d'indépendance autrement. Beethoven, depuis son enfance, il a côtoyé des mécènes. Il a toujours, comme par hasard, il s'est fait des amis chez les gens très riches. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Il a poursuivi cette voie de façon absolument dédiée tout au long de sa vie. Il avait toujours des mécènes qui l'aidaient et qui lui ont procuré une certaine indépendance par rapport au monde musical. C'est-à-dire qu'il pouvait composer à peu près ce qu'il voulait. D'une part, il n'était pas obligé de chercher des interprètes parce que c'est lui-même. Oui. Il dirigeait, il jouait du piano. Et d'autre part, parce qu'il pouvait survivre. Il y avait dans sa vie plusieurs personnes qui lui ont permis de subvenir à ses besoins qui ont été très basiques. Mais jusqu'à ce qu'il publie ses pièces, jusqu'à ce qu'il devienne connu, il a pu survivre.
Puis accessoirement, il ne payait pas ses dettes. Il y a des tas d'histoires sur ses pianos qu'il commandait sans jamais les payer.
Fermez la parenthèse. Absolument, c'est vrai.
Recha est quelqu'un...
Mais Recha, il a donné des cours particuliers, en fait. Il a réalisé assez tôt. Il était à Hambourg, il ne connaissait personne. Il avait besoin de temps pour lui, pour composer, pour découvrir son langage, son style. Et entre-temps, il donnait des cours à monsieur tout le monde, en fait. Et résultat, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan esthétique, il était totalement libre. Donc, ses premières compositions sont expérimentales, sont très originales pour la plupart. Et c'est après, justement, quand il va emménager à Paris, quand il va faire une carrière, entre guillemets, de pédagogue, que, paradoxalement, ses pièces vont devenir plus conventionnelles. Donc, c'est deux démarches différentes. Donc, on enseigne, on gagne son pain grâce aux élèves, et résultat, on compose ce qu'on veut. Ou alors, on côtoie des mécènes, des gens riches, et on compose ce qu'on veut. Le résultat est le même, sauf que Beethoven était quand même beaucoup plus connu tout de suite. Tandis que Recha, il y a des partitions, manifestement, que certains compositeurs dont Beethoven connaissait, ils les ont expectées. Beethoven a demandé à son frère Karl, qui était un peu son impresario pendant quelques années, d'écrire à son éditeur Breitkopf, éditeur viennois qui existe toujours, à sa maison d'édition pour publier les œuvres de Recha. Donc, il les considérait, il les respectait. Sinon, il n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il n'aidait pas beaucoup de gens autour de lui.
Dans ce disque, qu'as-tu choisi ? Des œuvres qui sont plutôt dans la tradition et, ou au contraire, des œuvres qui marquent un peu son identité, son génie et son côté un peu novateur. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu choisis ? Peut-être sur les disques à venir, ça va s'affiner aussi.
Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé ce projet sans l'intention de faire une série. C'était l'association avec ce label anglais, Chandos, qui m'a permis d'envisager une suite et du coup un approfondissement de la démarche beaucoup plus important et plus intéressant, plus enrichissant pour moi. Donc sur 5 ans, il y aura un disque tous les ans. Il y aura peut-être d'autres disques avec le même éditeur sur d'autres sujets, mais en tout cas... Je sais qu'il y aura au moins 5 heures de Recha. Et ça, c'est passionnant pour moi. Ça me donne une liberté. Donc, sur ce premier disque, j'ai choisi, pour répondre enfin à la question, certaines œuvres expérimentales. Donc, il y a une fantaisie qui dure 4 minutes, qui est sur 3 notes, sur un accord.
C'est quand même quelque chose qu'on pourrait voir au XXe siècle.
C'est très étonnant.
À cette époque-là.
C'est vraiment très, très étonnant. Il n'y a personne d'autre qui faisait ça, même 100 ans plus tard. Je pense que... Si Beethoven avait composé une pièce sur 3 notes, ce serait dans tous les manuels d'histoire de la musique.
Ouais.
Mais comme c'est Recha, ce serait considéré la preuve justement de l'esprit révolutionnaire de Beethoven. Donc je l'ai mis, pas parce que je trouve que c'est la pièce la plus magnifique, mais parce qu'elle est remarquable. Mmh. Sur le plan historique, elle est remarquable. Après, il y a 2 autres pièces de cette époque expérimentale, quand il avait une 20aine d'années. qui sont très étranges, qui vont un peu dans tous les sens, qui sont complètement imprévisibles, qui notamment qui traitent des mesures asymétriques. C'est les choses qu'on considère comme novateurs en 1920, pas en 1790.
C'est une influence peut-être... Oui, ces rythmes-là, ils viennent de l'influence indienne.
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de savoir d'où tout vient, parce qu'on a la vision sur l'histoire, l'intégralité de l'histoire de la musique, que ce soit en Inde, en Chine, ailleurs. À cette époque-là, on n'avait pas cet esprit de musée, on avait tous les traités, on n'avait pas accès à tout ça. Pour lui, c'était une invention. Il s'est dit, personne n'a fait ça, moi je me permets de le faire. D'ailleurs, il a écrit des préfaces dans lesquelles on le sent très mal à l'aise, il sent qu'il va être critiqué, où il essaie de se justifier, même avant que la pièce soit publiée, comme quoi on a le droit de faire ça, ça c'est touchant. Et puis après, il y a effectivement donc, la sonate dont j'ai joué le mouvement lent tout à l'heure, qui est la preuve de non seulement son ambition, mais son artisanat musical, sa capacité de composer une sonate qui fait 27 minutes. Encore une fois, en 1805, c'est pas rien. Schubert avait 8 ans. Il y a aucun autre compositeur, à part Beethoven, qui faisait ce genre de sonate. Haydn, à la fin de sa vie, à la limite. Mais autrement, il n'y avait pas ce côté masculin, affirmé, très créatif, avec des thèmes qui sortent tous les 8 mesures, très étonnant. Et puis pour finir, donc, il y a la première des pièces courtes, que je trouve extrêmement touchante, en mi mineur, qui a un côté très moderne dans l'esthétique. Il y a certaines personnes qui l'entendent comme du Satie, tellement elle plane, tellement les harmonies modulent de façon douce, un peu comme la musique française, comme on l'entend quand on parle de Debussy et Ravel. Pour terminer, quand on met ces pièces côte à côte, on a du mal à croire que c'est la même personne.
C'est ça.
Donc je pense que c'est le choc que je voulais évoquer, surtout, plus que la continuité. Et puis dans l'avenir, je vais approfondir dans certaines caractéristiques. Mais ne serait-ce que le fait que ça existe, qu'on puisse écouter cette musique, qu'elle puisse être enregistrée dans des très bonnes conditions, à la radio suisse, dans une salle magnifique à Genève, avec les meilleurs micros du monde. C'est déjà quelque chose, je trouve. Parce que le peu de cette musique qui a été enregistrée, d'autres œuvres de Recha, a été enregistré dans les mauvaises conditions. Un piano désaccordé, des gens qui n'avaient pas beaucoup travaillé. Enfin, c'était pas valorisant. Donc, si on entend une musique pour la première fois, et c'est une disque ou un contexte qui n'est pas valorisant, c'est vraiment dommage. C'est presque pire que de ne pas l'entendre. Parce que du coup, on dit, bon, bah, ça vaut rien, ça vaut pas la peine. C'est pas pour rien qu'elle est méconnue.
Et alors, vous, toi, je sais même plus. Comment, la première fois que tu as rencontré du Recha, c'était quand et où ?
Moi, j'avais lu des allusions à Recha dans des journaux musicologiques, dans lesquels j'aime bien fouiller de temps en temps, parce que ça donne beaucoup d'idées. Parce que souvent, les morceaux de musique qui sont les plus remarquables d'un point de vue historique ou musicologique ne sont jamais joués. Mm-hmm. Souvent, c'est des pièces qui sont populaires, qui perdurent et qui sont répétées encore et encore et encore. Donc même, il y a, par exemple, des variations sur un thème de Dressler qu'il a composé quand il avait 12 ans. Et c'est en lisant sur l'enfance de Beethoven, puisqu'il connaissait Recha, je voulais savoir plus sur l'enfance de Beethoven. Et j'ai su que Beethoven a composé des variations qui durent 16 minutes, publiées quand il avait 12 ans, où on retrouve beaucoup de caractéristiques du Beethoven mûr. C'est vraiment étonnant. C'est en do mineur, l'une de ses tonalités préférées. On trouve beaucoup, beaucoup de petits points qu'on retrouve dans les symphonies, la symphonie numéro 5 en do mineur, dans ses dernières sonates, alors qu'il avait 12 ans. C'est vraiment, je n'arrive pas à y croire. C'est presque trop bon pour être vrai. Et donc, j'aime bien fouiller là-dedans. Souvent, il y a des trouvailles, pas toujours. Et donc, on faisait allusion au fait qu'il y avait ce fou tchèque qui, justement, est composé des fugues très atypiques dans des mesures asymétriques. Et ça m'a toujours intrigué. Donc j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas accès à la partition. Donc j'ai un peu oublié tout ça. Et puis, je me suis intéressé à autre chose, à Debussy, à Godowski, à Morton Feldman. Enfin, j'ai fait mon chemin musical. Et je ne sais plus pourquoi j'ai pensé à ça. Je pense que j'étais en République tchèque pour un concert et puis après une interview, oui, c'était ça, où on m'a posé la question, alors est-ce que vous vous intéressez à la musique tchèque ? J'étais tellement gêné parce que j'avais aucun projet sur la musique tchèque, je me suis dit... Et j'avais tellement honte que j'ai commencé à regarder encore une fois les listes de compositeurs tchèques. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans ? Je me suis vraiment remis en question et puis je suis tombé sur son nom. Et j'ai décidé de trouver les fugues. Donc il y a des fugues opus 36 qui ont été publiées et qui sont un peu jouées. Elles sont rarement jouées, mais il y a 4-5 disques qui existent. Donc c'est déjà énorme par rapport à Richard. Donc ce sont les seules pièces pour piano qui sont un peu écoutées, qui sont, allez, une fois par mois diffusées à une radio quelque part, donc qui existent. Donc j'ai commencé à jouer certaines de ces fugues, et dans mes concerts, je les casais quand je pouvais. Je ne disais jamais aux organisateurs à l'avance que j'allais jouer. Je disais que, ah oui, ce sera Beethoven, Mozart, Haydn, oui, très bien. Et puis le jour J, je mettais 6 fugues de Richard. Et souvent, ça plaisait. Je voyais qu'il y avait quelque chose, que même... Le fait que ça soit inconnu n'empêchait pas les gens d'aimer. Et c'est à ce moment-là que c'est l'éditeur français Symétrie, qui à Lyon, m'a contacté, parce que j'étais le seul à jouer à la musique de Richard. Et précisément, ils étaient en train de publier des partitions de lui pour la première fois. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que vous le savez, qu'il reste il y a encore 10 heures de musique, qu'on est en train de publier petit à petit, est-ce que ça vous intéresserait ? Alors évidemment, j'étais aux anges.
Tu dis évidemment, mais ce n'est pas si évident. Il y a quand même beaucoup de pianistes qui sont ravis de s'en tenir à des sonates bien connues de Beethoven. C'est quand même quelque chose qui, dans ton parcours, est un fil conducteur. Alors, Godowski, c'est un compositeur qui a pris les études de Chopin et qui en a fait des versions pour une seule main. La main gauche. Et donc, même si on connaissait ces partitions, elles étaient parfois jouées par des pianistes à la fin d'un concert, un peu comme de l'esbrouf. Regardez, je peux vous faire la même, mais avec une seule main. Toi, tu en as fait vraiment le propos d'un disque. Plus tard, c'était Morton Feldman. Donc ça, c'est un compositeur américain contemporain, enfin du XXe siècle, très avant-gardiste, un peu mis de côté justement parce qu'il était trop avant-gardiste, on va dire. Donc les compositeurs qu'on ne regarde pas facilement, c'est vraiment ta passion et ce n'est pas une évidence pour beaucoup de pianistes.
Oui, je crois que ça fait peur, c'est normal, parce que est-ce que le disque sera diffusé à la radio ? Est-ce qu'il va plaire ? Est-ce que les gens vont venir au concert ? Est-ce que quand j'envoie des propositions de concert à des organisateurs et ils voient un nom qu'ils ne connaissent pas, une musique qu'ils n'ont jamais entendue, est-ce qu'ils vont accepter de le programmer ? C'est vrai qu'on ne rend pas la vie facile sur le plan commercial, ça, c'est évident. Mais c'est comme une fois, comment dire, une fois qu'on a goûté à ça, au plaisir de faire découvrir quelque chose, et puis de le découvrir soi-même, parce qu'avec Godowski et Feldman, j'avais l'avantage qu'il y avait des versions qui existaient, donc je pouvais vérifier, entre guillemets, que la musique était qualitative, qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est beaucoup plus rassurant si ça a déjà été fait. Là, le fait de jouer des fugues, c'est déjà une chose, mais recevoir des partitions dont aucune version existe et de se dire non seulement qu'on va l'enregistrer, mais qu'on va continuer avec 4 disques des partitions dont on a à peine déchiffré les partitions, ça fait très peur. Et je dirais que c'est encore un niveau au-dessus d'engagement et de crainte.
Oui, c'est intimidant.
Oui, c'est très intimidant. Et puis je suis, entre guillemets, dans la force de l'âge. C'est maintenant que je dois, soi-disant... me promouvoir ou alors faire beaucoup de choses, plein de concerts, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément le moment idéal pour me réfugier dans un répertoire qui n'intéresse personne. Mais c'est justement, puisque c'est le cas, que ça m'intéresse plus. Et ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Et puis, on sait tous qu'on... Enfin, je pense que chaque personne, quand elle est en phase avec ce qu'elle doit faire ou ce qui lui convient, cette personne ressent cette chose-là et peut s'exprimer plus et donner plus et s'épanouir plus. Et quand je fais ça, je suis dans cet état-là. Donc, j'ai beau vouloir... d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelques jours, jouer des nocturnes et des études de Chopin, par exemple. Mmh. Parce qu'il faut quand même les jouer pour les concerts. On sent aussi de la part du public... si ce n'est pas un soulagement, en tout cas un bonheur d'écouter ces pièces, même si tout le monde les a entendues déjà 1000 fois, je comprends. Et je les joue, bon, parfois malgré moi, mais parfois...
Parfois par plaisir, quand même.
Parfois par plaisir aussi, mais pas si souvent que ça. Mais moi, mon truc, entre guillemets, c'est ça. En fait, je pense que c'est ma contribution. Et je pense aussi que, comment dire, qu'il faut penser à est-ce qu'il y a une contribution à faire. C'est-à-dire que j'imagine, un peu comme Beethoven, j'essaie d'imaginer, si on les connaissait par ses partitions, qu'est-ce qu'on penserait aujourd'hui ? Alors j'essaie d'imaginer si tous les gens qui terminaient des études au conservatoire, dans tous les beaux conservatoires du monde, chacun d'entre eux y défendait un compositeur méconnu, qu'est-ce que ça donnerait ? Ce serait incroyable, parce que, évidemment, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire, qu'il y a beaucoup de gens très talentueux, ce n'est pas ce qui manque. Ils font tous la même chose, c'est incroyable, ils jouent tous la même chose, ils enregistrent toutes les mêmes sonates de Beethoven, souvent de la même façon. Ils ont déjà entendu beaucoup de disques, donc c'est très difficile. Je dis pas, pour sortir de là, c'est impossible, c'est mission impossible. Et puis forcément, ils vont être comparés à des légendes. S'ils jouent les variations Goldberg, ils vont être comparés à Glenn Gould. Et puis Glenn Gould, il sera forcément meilleur, même s'il n'est pas meilleur objectivement, mais il l'a fait en 1952, donc trop tard. Et c'est terrible. Mais n'empêche que les gens continuent encore et encore et encore. Et c'est vrai que j'ai une vision différente aujourd'hui. Je n'ai pas la même vision d'il y a 15 ans, quand je commençais ma carrière. Aujourd'hui, quand je regarde mes confrères, d'ailleurs qu'ils soient pianistes ou chefs d'orchestre ou violonistes ou peu importe, le choix de répertoire et le timing du choix du répertoire est très intéressant et très parlant. Et je ne veux pas dire que, une fois que je vois que quelqu'un enregistre encore le concerto de Beethoven,
qu'il est foutu.
Je n'irai pas jusque-là, mais il faut qu'il y ait une très, très bonne raison. Ouais. Vraiment, une raison personnelle, je veux dire. Pas une raison marketing, parce qu'il joue 60 fois en concerto cette année-là. Bon, là, ça, c'est une autre raison. C'est une logique qui fait partie du milieu. Mais je veux dire, une raison qui est vraiment artistique, on va dire. Qui n'a aucun lien. D'ailleurs, que ce soit quelque chose qui n'a pas d'utilité. Je trouve ça très beau, en fait, de choisir un répertoire parce que. Point. Pas parce que ça va marcher ou pas parce qu'on calcule que. Et finalement, c'est ça qui fait que je puisse, moi, continuer chaque année. Je ne suis pas déprimé. Enfin, je peux être déprimé pour d'autres raisons, mais pas pour la musique. Je suis toujours en éveil musical, je suis toujours curieux. Et ça, c'est beau, c'est très précieux. Donc, je ne suis pas prête à céder cet élément de ma vie pour poursuivre d'autres qui pourraient me manquer par ailleurs. Et donc, je m'épanouis avec ça. Donc, c'est un choix très personnel et demain, ce sera autre chose. Ce sera sans doute parce que Recha, par exemple, j'en avais entendu vaguement parler, mais si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que j'allais faire 5 disques de suite sur lui, j'aurais jamais cru.
Je vais laisser quelques minutes si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si un micro tourne, mais je pense que si vous parlez bien fort. Ah, pas de questions. Ah, si. Alors, la question, c'est est-ce que vous vous faites accompagner dans ce travail sur les partitions?
Oui, est-ce que j'ai un coach ou quelque chose comme ça, c'est ça ou...
Un coach, ou est-ce que vous demandez conseil? Je ne connais pas votre mécanique de travail, mais ça m'intéresse de savoir, en fait.
Oui, c'est une bonne question. Je devrais, sans doute.
L'éditeur, il participe
assez peu.
D'accord.
C'est-à-dire que... Comment dire? J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et par le biais de cette observation, justement, c'est ce qui est très pratique avec la vie à Bordeaux, c'est que j'observe ce qui se passe à Londres et à Paris, et je suis un peu en dehors de tout ça. Mais j'observe quand même, et j'y vais souvent. Et donc j'ai une espèce de vision globale sur ce qui se passe. Et c'est ce qui me permet d'essayer de choisir des projets au bon moment. Parce que je pense que Recha, c'est aujourd'hui. Et je ne saurais pas vous définir exactement pourquoi c'est aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui. Ce n'est pas il y a 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. C'est aujourd'hui que ça doit se passer.
Concomitant à la sortie de ce disque, il y a le disque... Bon, après, c'est aussi parce que le Palazzetto Bruzzane, donc il y a un centre de musique, de recherche sur la musique romantique française, qui est basé à Venise et qui a poussé aussi à ce que de la musique de chambre de Recha soit enregistrée. Ouais. Enfin, y a un vrai mouvement.
Oui, et puis ils ont vraiment contribué de façon assez importante sur le plan financier et sur la promotion de ce premier disque. Donc c'est vrai que...
Et eux, ils t'ont aidé dans ton travail pour répondre un peu à cette question ?
Non, justement, ce qui est le plus difficile, je crois, aujourd'hui, dans l'art, bon, ça c'est super introduction pour la phrase qui suit, j'ai intérêt à assurer là, c'est d'avoir un avis. C'est d'avoir un avis qui vous appartient. Un avis qui est percutant, mais un avis personnel. Et c'est tellement rare, c'est incroyable. Donc, parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. Recha, il avait un concurrent au conservatoire qui s'appelle Fétis. Et Fétis était un Belge, donc étranger comme lui. Et en fait, dès que Recha est mort en 1836, Fétis a pris sa place comme professeur de contrepoint au conservatoire. Et il a écrit ce qu'on appelle le Dictionnaire universel des musiciens dans les années 1860, qui en gros a fait la réputation de tous les compositeurs de son époque. Et il y en avait où il les cassait un peu, dont Recha, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Et parce que Recha a fait des traités sur la composition qui étaient un peu hautaines et puis qui avaient des avis assez atypiques.
Tranchés,
très tranchés. Et en plus, il avait des élèves qui sont devenus des stars. Berlioz, Franck, Liszt, des gens qui... Et puis, il disait souvent que c'était grâce à lui, en partie parce que c'était un prof charismatique. Donc, Fétis, il détestait ça. Ça l'énervait.
Il comme élève, personne de connu.
Non, et puis, sa musique, vraiment... bon, bref. Parce qu'il était un peu compositeur aussi, mais pas vraiment... Bref, donc c'est Fétis qui a rédigé le premier article sur Recha avec une liste des œuvres et avec un avis sur les œuvres de Recha. Et il disait notamment, il méprisait les œuvres qui sont restées en manuscrit. Alors qu'il est très probable maintenant, parce qu'on sait sur Fétis qu'il s'est... Souvent, il était un monsieur très érudit, mais quand il ne savait pas, il faisait semblant de savoir. Donc, je suis persuadé qu'il n'a jamais regardé ces partitions. Il a juste dit, c'est pas la peine de regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tout le monde a lu ce dictionnaire universel des musiciens. Ils n'ont pas cherché plus loin. Ils ont dit, Fétis a dit ça, bon, donc c'est comme ça. Et on voit souvent dans l'histoire de la musique des histoires comme ça. Le premier à avoir un avis, c'est celui qui gagne. Et par exemple, les variations de Beethoven, qu'il a composées à 12 ans, ont été très méprisés par un critique de son époque. Et Beethoven, ça l'a profondément blessé parce qu'il était fier de publier sa première pièce, c'est normal.
À 12 ans, il a le droit.
À 12 ans, il a le droit. Mais comme son professeur a écrit un petit article dans un hebdomadaire local en saluant ce jeune compositeur brillant, l'autre, il voulait le casser. Et c'est ce qu'il a fait. Et résultat, Beethoven n'a rien publié jusqu'à ses 19 ans. Et c'est resté pour lui un échec. Alors que la pièce n'est pas du tout un échec. Mais puisque ce monsieur a dit en premier que c'est un échec, c'est un échec. Donc, disons que pour avoir un avis, pour cultiver un avis surtout, c'est peut-être mieux de ne pas être suivi, justement. Parce que même les textes qui ont été rédigés par des personnes associées au Palazzo de Bruzzane, qui sont des musicologues qui ne font que penser à Recha toute la journée, qui ont fait leur doctorat là-dessus, quand vous lisez ce qu'ils disent sur lui, il n'y a pas de surprise. Ils ont réuni des informations qu'on avait déjà, mais ils ne vont pas trancher en disant si ou ça.
Ils n'osent pas dire que l'histoire s'est trompée
Non. Ils ne vont pas dire que c'est plutôt une telle composition ou une autre, ou il y a des défauts, c'est plutôt si ou ça. Pas vraiment. Donc, c'est ironique, en fait, parce qu'ils font tout ce travail pour avoir un avis. Et puis, soit ils ne l'expriment pas parce qu'ils ont peur, soit ils ont pas d'avis. Donc, je suis assez seul, en fait, dans ce travail-là, pour répondre à la question.
Non, tu ne vas pas être seul, puisque les gens qui nous écoutent vont se faire une opinion et peut-être se rallier à la tienne. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup de cette heure passée en ta compagnie, en musique et en parole.
Merci.
Et merci pour cette découverte d'Antoine Recha.